Merci Dominique Vary. Alors comme vous avez pu le constater ce matin, beaucoup de choses ont été dites déjà à propos de Paul Hautelet. Je vais m'efforcer de ne pas trop répéter ce qui a déjà été dit, mais enfin il y aura quand même quelques redites. Vous m'en excuserez par avance. Alors cette présentation c'est une ébauche, une esquisse de l'étude des relations entre Eugène Morel et Paul Hautelet. Et le sujet pourrait ne pas aller de soi. Tant l'avocat français est associé à la lecture publique, aux bibliothèques, et l'avocat belge, Paul Hautelet, étant considéré comme le père de la documentation. Et vous verrez au fil de cet exposé qu'il n'en est en fait rien. Alors donc, des premiers jalons de réflexion que je vous propose aujourd'hui, avec deux interrogations principales, pour fil rouge en quelque sorte. Tout d'abord, la question de savoir si on peut documenter une relation directe, une correspondance entre Paul Hautelet et Eugène Morel. Seconde interrogation, un peu plus sur le fond, quelles sont les conceptions de la documentation des deux personnages en question, et y a-t-il eu, et si oui lesquels, interpénétration de leur pensée, quel est l'apport d'Hautelet sur la réflexion, la pensée de Morel, et en retour, comment Morel a-t-il pu, le cas échéant, influencer les travaux de Paul Hautelet. Alors, ce travail, encore une fois, c'est une esquisse, et c'est une esquisse qui s'est appuyée sur un travail en archives. J'aurais souhaité un peu plus long, mais le temps imparti ne permettait pas cette exploration plus conséquente. Voyage dans les archives du monde d'Anéum déjà, qui conserve la documentation, tout ce que Paul Hautelet a pu écrire, réaliser tout au long de sa carrière. Et notamment, vous y trouverez là-bas le répertoire bibliographique universel des centaines de milliers, des millions de fiches encore conservées au monde d'Anéum, donc à Mons, en Belgique. Voyage en archives, je disais, également à l'UNESCO. Et pourquoi l'UNESCO? Puisque l'UNESCO conserve actuellement les archives de l'Institut international de coopération intellectuelle qui est né sous l'égide de la SDN. Et vous verrez, je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure, il a été nécessaire de consulter ces archives-là. Voyage encore dans les archives de la ville de Levallois-Perret. Je reparlerai de la question du catalogue réalisé par Morel dans les années 1911-1913. Voyage encore dans les archives de la Société d'encouragement pour l'industrie nationale, qui conserve les documents, les archives du Bureau bibliographique de France, mais malheureusement pas pour la période pendant laquelle Morel a été son président. Voilà, donc il a fallu réaliser ces travaux d'archives pour arriver à une soixantaine de documents, de lettres entre Eugène Morel et Paul Hautelet. Alors comment caractériser ces documents? Eh bien essentiellement des échanges professionnels concernant la question de la documentation, une question pratique. Des échanges liés à l'organisation des conférences internationales de bibliographie, dans lesquelles Eugène Morel a été invité à prendre la parole, mais aussi des questions liées aux stratégies d'alliance, puisque les années 30, pour faire simple, ce sont les années de mise en place de constitutions de différentes associations internationales qui ont pour objet la documentation et des luttes d'influence entre ces différentes associations. Voilà pour ce travail en archive. Alors je vous propose dans un premier temps d'aller voir du côté des conceptions de la documentation de Paul Hautelet et de Eugène Morel, de les comparer. Et puis je reviendrai sur deux exemples précis de travaux. Je reparlerai effectivement du catalogue de la bibliothèque de Levallois-Perret et puis de la prise de parole d'Eugène Morel dans les conférences internationales de bibliographie. Alors, la documentation chez Paul Hautelet, d'abord rappeler que Paul Hautelet est l'auteur d'un traité de la documentation qui synthétise l'ensemble de ses travaux, traité de la documentation paru en 1934 et qui fait office à l'époque de référence. Alors, Paul Hautelet, vous savez, est traditionnellement considéré comme le père de la documentation. Et cette question de la documentation est d'autant plus importante que l'Europe, l'Occident, vivent ce qu'on a appelé la seconde révolution industrielle. Alors quel lien entre les deux ? Cette seconde révolution industrielle, elle est possible parce que les connaissances, les savoirs scientifiques et techniques se développent, se fécondent les uns les autres, et que la masse documentaire devient à une croissance exponentielle. Et Paul Klee et Henri Lafontaine, pardon, vont être parmi les premiers en Europe à se demander mais comment faire face à cette masse de connaissances, comment l'organiser, comment pouvoir en tirer la quintessence. Alors c'est également la période, si l'on suit Sylvie Faye-Scribe et son histoire de la documentation en France, de l'apparition des termes eux-mêmes. Hein. Documentation apparaît en 1870, documentaire c'est 1877, et en 1932, donc un peu plus tard, le terme de documentaliste verra le jour. Donc je disais, un contexte historique de seconde révolution industrielle, un développement de l'information scientifique et technique, et la question de savoir où trouver cette information scientifique et technique. Eh bien, on la trouve principalement dans les bibliothèques savantes industrielles, dans les bibliothèques d'éducation populaire, pardon, mais aussi dans les bibliothèques d'usines, comme la bibliothèque de l'usine électrochimique en Maurienne, qui possède environ 1200 ouvrages et près de 600 périodiques. Mais par rapport à cette documentation scientifique et technique, eh bien, la bibliothèque nationale est en retrait, ainsi que les bibliothèques municipales qui proposent finalement peu de ce type de documents. Alors face à cette accélération de la production documentaire et notamment de la publication de périodiques et évidemment d'articles, eh bien la question, c'est la question du repérage de la documentation et du dépouillement de ces périodiques. Alors, comment c'est résolu ? Eh bien, c'est résolu principalement par des chercheurs qui vont créer chacun dans leur domaine des bibliographies spécialisées et qui mettent chacun de leur côté en œuvre des systèmes de classification, des méthodes de dépouillement, qui finalement ont le désavantage de ne pas pouvoir être normalisées. Et c'est ce sur quoi Paul Klee et Lafontaine notamment vont travailler. Alors, Paul Klee va donc être celui qui va tenter une première approche de normalisation des pratiques, et il s'appuie sur une analyse radicalement nouvelle de l'ordre classique des livres. Pour lui, certes, les bibliographies sont intéressantes, mais ce qui est primordial dans cette phase d'accélération de la production de l'information scientifique et technique, c'est d'arriver à représenter le contenu de ces documents, et non plus simplement produire une liste de livres. En 1903, Klee affirme que dans cette production documentaire, évidemment, le livre n'est pas seul. Lui préfère parler de connaissances. Et Klee en arrive à affirmer que le document se définit par sa fonction et non par sa morphologie, ce qui est nouveau. Et sa fonction, eh bien, cela revient à fournir des renseignements exacts, dit Klee, selon les questions posées par les hommes. Et Klee invente le concept d'unité documentaire, c'est-à-dire un tout signifiant, homogène et fermé. Alors de 1905 à 1925, il va affiner sa définition de la documentation comme organisation intellectuelle. Il travaille sur les relations sémantiques, pardon, qui peuvent unir des descripteurs sujets entre eux. Parallèlement à ça, Klee voit la documentation comme un ensemble de moyens organisant et permettant la communication de l'information. Pendant toutes ces années, pendant cette vingtaine d'années, il va travailler sur les axes suivants, l'universalité de la documentation, son exhaustivité et les problèmes qui peuvent en découler, son accessibilité, donc, moyennant un travail sur les outils de repérage de l'information, mais aussi sur l'unification des méthodes, normalisation, mais aussi dans le domaine de la coopération et de la fédération des énergies pour réussir à présenter un tableau de la documentation qui soit le plus efficient possible. Alors, très brièvement, en 1895, mais vous le savez déjà, il est à l'origine de l'Institut international de bibliographie qui va organiser le fameux répertoire bibliographique universel, Hein, ce sont des, comme je disais, des centaines de milliers de fiches, de dépouillement, d'articles, de périodiques, d'ouvrages. Et il va aussi avoir une activité très conséquente pour organiser les différents acteurs de la documentation, pour faire simple. Donc, travailler de manière verticale. Par exemple, un des premiers travaux de l'Institut international de bibliographie, c'est d'organiser une bibliographie internationale de bibliographie. Et travailler de manière horizontale aussi. On a cité tout à l'heure le bureau bibliographique de Paris qui deviendra le bureau bibliographique de France, qui est une antenne, on va dire, de l'Institut international de bibliographie. Hautelet est un grand créateur d'associations, pas simplement dans le domaine de la documentation, mais en 1913, il crée l'Union des associations internationales qui va œuvrer dans ce domaine de la documentation. Cette association prendra fin en 1914 avec la guerre. Voilà, donc Hautelet, un travail sur la normalisation, sur le repérage de l'information, et un travail aussi pour fédérer les énergies autour de la documentation à un niveau international. Alors, chez Morel, c'est pas du tout ça. Chez Morel, le but de l'activité bibliographique, c'est la documentation, tout simplement. Si on reprend son essai sur le développement des bibliothèques publiques, dans le premier volume, on a 6 fois la présence du terme documentation, qui est généralement associé à, au terme quelconque. Je cite 2 exemples, page 277, pour une documentation quelconque, chercheur de documentation quelconque. Pour Morel, il s'agit... Morel oppose finalement un livre d'usage quotidien à une documentation plus précise, quel qu'en soit le sujet. Et finalement, il reprend le terme sans donner lieu à une analyse ou à un débat. Dans le second volume de ce même essai sur les développements des bibliothèques publiques, Morel commence son chapitre 9 intitulé « La bibliothèque sans livre » par un passage intitulé « Difficultés de la documentation scientifique et pratique en France ». Et Morel écrit « La documentation d'une étude sociale moderne et au courant rencontre à Paris d'invraisemblables difficultés ». Dans ce court chapitre, il replace le terme de documentation dans le cadre d'une analyse plus large. Il fait état d'une acception plus neuve du terme de documentation. Pour lui, cette documentation inclut alors tout type de document, qu'il soit imprimé sur du papier ou qu'il transite par les ondes. Dans ces conditions, Eugène Morel considère que tout l'effort des bibliothécaires doit porter sur la constitution de fiches pour tous les types de documents et qu'elles n'ont pas à être réalisées par toutes les bibliothèques, mais bien une seule agence bibliographique. Une de mes collègues en a parlé déjà un petit peu ce matin. Donc on est bien là aussi sur l'outil de repérage de l'information. Il pose par ailleurs les bases d'une réflexion sur une espèce de catalogue collectif étendu à tous les types de documents et pas simplement aux monographies. Alors je vous cite un petit passage de ce chapitre. Livrer aux bibliothèques des fiches toutes faites, c'est pouvoir exiger des catalogues tenus à jour, des catalogues utiles et de divers systèmes. C'est une économie et c'est rendre le bibliothécaire à son métier, le service du public. Créer des centres bibliographiques, c'est organiser la science en France, assurer le travail en province, établir régulièrement le prêt et l'envoi des matériaux scientifiques, décentraliser les études. Importantes réformes, ou plutôt créations, qui selon nous, doivent aller de pair avec la réforme du dépôt légal. Pour Morel, tous les outils de la bibliothéconomie sont donc au service de la documentation. Quelques années plus tard, en 1930, il va préciser sa pensée. 1930, c'est un des congrès de bibliographie, internationale de bibliographie. On est à Zurich. Et Morel écrit ceci. Le mot documentation est tout aussi long et aussi laid, entre parenthèses, que le mot bibliographie. La bibliographie n'est rien qu'un moyen. La documentation est le but, et la bibliographie n'a de valeur qu'en vertu d'elle. Livre, article de revue, de journal, qu'importe. Téléphoner, radiographier, c'est de même. Sur papier, pur fil ou sans fil, c'est de même. Peut-être certains penseront que ceci ne regarde plus les bibliothèques. Je constate simplement que des forces puissantes, notamment dans l'industrie, créent actuellement à grand prix des organes d'information technique dont ils sentent la nécessité. Les bibliothèques ont-elles intérêt à être ces organes ou à les laisser se créer en dehors d'elles? Chacun dans son domaine peut se poser cette question. Je reviens sur la définition de la documentation par Morel et sur l'introduction des documents radiographiés. Ça fait écho à quelque chose qui sera le bréviaire du documentaliste qui sortira en 1951 sous la plume de Suzanne Brier. Alors si Paul Hautelet est le père de la documentation, Suzanne Brier pourrait être la mère de la documentation. Son livre « Qu'est-ce que la documentation ?» propose une définition du terme qui est la suivante. « Tout indice concret ou symbolique, conservé ou enregistré, aux fins de représenter ou de prouver un phénomène physique ou intellectuel. » Tout est donc document. Pour résumer, il semblerait que chez Morel, la question de la documentation prenne deux formes. Il l'envisage très tôt, je ne reviendrai pas sur la participation de Hautelet et La Fontaine aux conférences organisées par Eugène Morel, Lydie en a parlé ce matin. Il l'envisage très tôt et il l'envisage sous l'angle des outils de repérage de l'information et notamment des systèmes de classification. Comme vous savez, Hautelet et La Fontaine sont à l'origine de la classification décimale universelle. Au même moment ou à peu près, Eugène Morel aura vent de la Dewey et il l'utilisera, comme on va le voir juste après, notamment à Levallois-Perret. Et puis dans un second temps, à la fin de sa vie, c'est-à-dire autour des années 30, je rappelle que Morel est mort, est décédé en 1934, il va s'intéresser aux alliances entre les associations internationales de documentation et à entrer dans une perspective plus stratégique. J'irai pas plus loin sur ces deux conceptions de la documentation. Je vous propose de revenir brièvement sur ce que j'ai appelé des rencontres de Paul Hautelet et d'Eugène Morel. Alors, rencontres qui peuvent être physiques, réelles ou intellectuelles. Le premier exemple que je vais reprendre à mon compte, excusez-moi, c'est la question du catalogue de la bibliothèque de Levallois-Perret. On l'a vu, Hautelet et Morel partagent un intérêt pour les systèmes de classification décimale des documents. Morel va être engagé par la ville de Levallois-Perret. On retrouve dans les archives municipales de Levallois-Perret la mention de son salaire inscrit au budget. Et il va être chargé de rédiger le catalogue de la bibliothèque populaire de Levallois. Il va s'en acquitter, le catalogue sera publié en 1913. Et pour la petite histoire, le catalogue est publié à 2000 exemplaires, vendu 1 franc, parce que la municipalité d'alors ne voulait pas que ce catalogue soit distribué gratuitement aux 650 et quelques lecteurs de cette bibliothèque. Et le coût de fabrication est de 3000 francs de l'époque. Il sera réédité en 1925 avec une différence notable. Il y avait sur la première édition deux tables d'auteurs, une table pour les documentaires, une table pour les romans. Elle sera unifiée dans la seconde édition. Comme le dit Morel dans la préface du catalogue, réédité en 1925, il ne s'agit pas de décrire, mais de faire lire. Alors, je rappelle que ce catalogue, c'est le premier essai de catalogue systématique en France, moyennant l'utilisation d'une classification décimale. Selon Morel, et là, difficile me semble-t-il de vérifier, selon Eugène Morel, suite à la rédaction de ce catalogue, les prêts et la communication ont été doublés. Plus encore, la part des romans qui était communiqué avant la rédaction de ce catalogue était de 97% des communications et ça tombe à 60% après l'utilisation par les lecteurs de ce catalogue. Donc une espèce de plaidoyer pro domo. Le deuxième point de cette rencontre entre Hautelet et Morel, ce sont les interventions d'Eugène Morel dans les congrès de bibliographie. Alors deux exemples. 1931, c'est la 10e conférence de bibliographie à La Haye, du 25 au 29 août, organisé par l'Institut international de bibliographie, dirigé donc par Paul Hautelet. Paul Hautelet fait une conférence introductive qui s'appelle « Conditions et caractéristiques générales de la bibliographie et de la documentation dans le monde », où il met l'accent justement sur la nécessité de la collaboration des différents acteurs de la documentation. Et Eugène Morel intervient sur le thème « Statistiques du livre en France et son aspect bibliographique ». Alors que dit Morel sur ce sujet-là, pardon ? Il déplore le manque de statistiques fiables concernant la production de livres en France. Il appelle de ses voeux la mise au point d'une méthode fiable de comptage et il met l'accent sur le fait qu'il y a une disparité, des différences dans la terminologie employée pour désigner les documents. Tout le monde n'utilise pas les mêmes termes et donc si tout le monde n'utilise pas les mêmes termes, eh bien les statistiques en deviennent très compliquées à établir. Donc c'est le point important que développe Morel dans cette conférence. Et il ne sera pas entendu. Il ne l'a pas été en 1929 déjà, quand il a fait un premier rapport à la conférence de Rome. Il reprend son rapport, développe ses arguments, mais de nouveau, ça restera lettre morte. La deuxième conférence sur laquelle j'ai porté mon attention, c'est celle de juillet 1933, qui est la 12e conférence de bibliographie, internationale pardon, de bibliographie, là encore organisée par Paul Hautelet. Morel est le représentant de la Bibliothèque nationale à cette conférence, représentant officiel. Alors il ne va pas produire de rapport, mais interviendra dans différentes commissions, et notamment les commissions qui traitent de la question du droit d'auteur et du droit de la documentation. Donc ça, il fait partie des gens qui sont en avance, évidemment, sur leur temps, à cette époque-là. La situation internationale est très compliquée, crise économique, crise politique diverses et variées, et Morel écrit à Paul Hautelet. Paul Hautelet est en situation difficile, puisque les finances de l'Institut international de bibliographie sont au plus bas. La lutte est forte pour qu'on déplace cet Institut international vers Genève et la SDN. Paul Hautelet s'y oppose, Paul Hautelet recherche des alliances écrit à Morel. Morel lui répond, alors un petit mot, la situation internationale est calamiteuse et l'attente s'impose. Mauvaise internationalement, la situation l'est plus encore pour la France. Réduction générale dans le coin des bibliothèques, pas encore de réponse à l'association des bibliothécaires français. Enfin, grande réclame autour d'un manuel où la classification décimale est écrasée. Monsieur de Lille ne faisait pas mieux. Il y a une véritable, ce sont des années de tension hein, à l'intérieur de l'ABF, à l'intérieur des organisations de documentation, et comme vous pouvez le voir, l'idée de la classification décimale a encore du chemin à faire en France. Voilà, je voudrais terminer cette introduction aux relations entre Morel et Paul Hautelet sur une espèce de déception, puisque de 1930 à 1934, Eugène Morel a été président du Bureau bibliographique de France, pardon. Et malheureusement, j'ai cherché en vain les archives permettant de documenter cette période-là, qui me semblait très intéressante, justement parce qu'on est dans une lutte d'influence entre différentes associations. Je ne les ai pas trouvées. J'espère pouvoir continuer et pouvoir trouver quelques éléments à un moment donné. Mais ce que je peux déjà en dire, c'est que si Morel semble appuyer Paul Hautelet pour le maintien de l'Institut bibliographique à Bruxelles, et donc lutter contre la SDN, Morel est un pragmatique. Son antenne du Bureau bibliographique de France est hébergée dans un premier temps par la Société d'encouragement à l'industrie nationale, comme je l'ai dit. À un moment donné, ce n'est plus possible. Et vers qui se retourne Morel ? Morel se retourne vers l'ICI, l'Institut international de coopération intellectuelle, qui n'est autre qu'une branche de la SDN. J'ai pas amené ici la lettre, une lettre d'un de ses collègues de la Bibliothèque nationale. Morel, une fois décédé à la Bibliothèque nationale, on sait que Morel est le président de ce bureau bibliographique de France, mais on ne sait plus à qui envoyer les lettres qui arrivent à l'ABN. Voilà. Merci.